Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anaïs Peignet, une Parisienne et trentenaire comme moi. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, elle travaillait chez Doctissimo et de mon côté, j'étais dans le groupe Alès. Alors c'est un groupe de cosmétiques qui détient les marques Lierac et Phyto et ils avaient aussi à l'époque la marque Caron, les parfums Caron. La dernière fois que nous nous sommes croisés, c'était il y a 2 ans, je travaillais chez L'Oréal Luxe pour la marque Armani Beauté et elle de son côté travaillait chez My Little Paris. Et à l'époque, on préparait un événement dans les locaux de L'Oréal avec My Little Paris. Alors My Little Paris, c'est le site des meilleures adresses parisiennes pour ceux qui ne connaissent pas. Et depuis quelques mois, elle a changé de job, elle s'occupe aujourd'hui du média Les Éclaireuses qui est dans le top des sites d'actualité, tendance, mode, inspiration et le plus important pour nous, la beauté. Oui, Les Éclaireuses, c'est le média actuel avec la communauté beauté la plus engagée, la plus puissante en France. Alors vous l'aurez compris, Anaïs est une passionnée de la beauté, elle s'y intéresse depuis toujours, elle est également maman de 3 enfants. Anaïs m'a invitée dans les locaux Les Éclaireuses à Levallois-Perret, à 2 pas de Paris. Allez, en place, c'est le podcast beauté. Bonjour Anaïs.
Bonjour Katia.
Ça fait plaisir de te revoir après tout ce temps.
Pareillement, je suis vraiment contente qu'on se revoie.
On se le rappelait juste avant, justement, ça fait quelques années. C'est ton tout premier podcast ?
C'est mon tout premier podcast. Et moi qui suis une grande auditrice de podcasts, j'en écoute toute la journée, je suis vraiment hyper flattée de faire ce premier podcast avec toi.
Moi aussi, je suis flattée. Merci. Alors, tu sais, je me suis dit ce week-end, en préparant l'interview, heureusement que Facebook et LinkedIn existent, parce qu'en fait, même si on se connaît depuis si longtemps, je ne te connais pas aussi bien que ça. Et donc, je remercie quand même Facebook. C'est grâce à ça que j'ai trouvé les questions à venir, quand même. Et puis, bon, tu m'as donné quelques petits tuyaux. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens ?
Alors, moi, je viens de Paris.
Donc, tu es une vraie Parisienne ?
Ouais. Je suis une vraie de vraie.
Une vraie de vraie, ce qui est très rare à Paris, en fait.
Je crois que c'est très rare. Après, quand on vient de Paris, on côtoie beaucoup de Parisiens, parce qu'on a grandi avec eux. Donc moi, j'en connais beaucoup.
Bah moi, j'en connais pas tant que ça. Donc voilà, tu fais partie des rares pures souches parisiennes que je connaisse. Tu m'as dit que tu t'es passionnée très tôt pour la danse. Est-ce que tu peux me raconter, parce que j'ai même vu du coup que tu as fait le conservatoire.
Ouais.
Donc c'était très, très...
C'était intense.
Une passion.
C'était une grosse passion. En fait, en troisième, je crois, j'ai commencé... Enfin, dès la sixième, non, je faisais déjà beaucoup, beaucoup de danse. En moyenne 10 heures de danse par semaine. Et à partir de la troisième, j'ai décidé de partir au conservatoire de Paris. Enfin, j'ai passé les auditions pour être prise. Et donc, ça a marché, j'ai été prise. Et après, j'ai dansé pendant 4 ans au CNSMDP, donc, qui est le Conservatoire National de Paris, à la Villette, où là, pareil, j'ai passé les auditions et on était 300 On était 11, je crois, à être sélectionnés.
Wow. Voilà,
et j'ai fait toutes mes classes là-bas, de lycée
jusqu'au bac. Mais du coup, tu voulais faire de la danse ton métier ou pas à la base ?
Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée, ouais. Évidemment. Je pense qu'en fait, j'étais très douée pour ça. Et je suis rentrée dans un cursus qui fait que quand on est 300 à passer l'audition et qu'ils en sélectionnent 10, puis que de l'année d'après, certains sont virés, d'autres redoublent et que moi je passe l'année suivante et que les années passent. Finalement, je pense qu'à cet âge-là, 15 ans, je ne me posais pas la question de savoir si c'était ça que je voulais faire ou pas. C'est juste que c'était ça que je faisais. Et je n'étais pas dans la projection. Et donc, j'ai fait mes classes. Et c'est vrai qu'après, j'ai dansé pendant 2 ans dans une compagnie à Cannes. Et une fois que j'ai été un peu seule et que là, il a fallu que je trouve du travail, je suis partie à New York donc faire des auditions. Et donc, j'ai été prise dans ça s'appelait le Harlem Ballet.
Wow. Mais tu avais quel âge à New York ?
J'avais 20 ans, ouais. 21 ans. Voilà.
Tu es partie comme ça.
Je suis partie comme ça. Je me suis dit, allez, New York, ça va être chouette. Je vais pouvoir essayer de faire ma carrière. Et en fait, quand je suis rentrée en France, justement pour m'occuper des papiers, pour faire mon visa, pour repartir, c'est la première fois que je me suis posé cette fameuse question que tu viens de me poser. Est-ce que tu voulais faire ça de ta vie ? Et finalement, je n'avais pas une réponse franche qui me disait, bah oui, bien sûr, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Et donc, j'ai pris le temps de me reposer sur ça et de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie ? Moi, je suis très intuitive, donc est-ce que tu as ça dans les tripes ? Est-ce que tu as ça dans le ventre ? Et j'ai constaté que non, qu'en fait, au contraire, j'avais plus l'angoisse qui montait à l'idée de retourner à New York. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la danse. Donc, c'était un gros choc quand même quand on a fait ça toute sa vie. Et que j'ai en plus pas fait d'études derrière parce que je faisais de la danse du matin au soir. Donc, une fois que j'avais mon bac, j'ai plus fait autre chose que ça.
C'est quand même, on peut dire, à ce moment-là que tu as commencé aussi à faire des spectacles.
Oui,
très tôt. Et que tu as commencé aussi à t'intéresser au milieu de la beauté. À quel moment tu as commencé à devoir te maquiller pour les spectacles ?
En fait, dans la danse, et je le vois parce que j'ai une fille qui a 7 ans, 6 ans, et qu'elle a déjà fait des spectacles, quand tu fais un spectacle de danse, très tôt on te maquille, mais vraiment très tôt. Mmh. Et c'est vrai, quand j'ai vu ma poupée, moi, à 5 ans, monter sur scène et avoir déjà du mascara,
ça t'a choqué.
Ouais, c'est un peu tôt. Mais donc, moi, je me souviens de très tôt, et je pense que d'ailleurs, j'ai toujours, à cette époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait on vendait des palettes de couleurs pour les yeux. Ouais. C'était Jemet qui faisait ça. Et ouais. J'en avais, mais toutes les couleurs. J'avais toutes ces petites palettes rondes, là. À l'époque, il n'y avait pas les grandes palettes avec toutes les couleurs, quoi. Elles étaient une par une. Et très tôt, j'avais ma trousse de maquillage et je savais me maquiller.
Et tu te maquillais toi-même pour les spectacles.
Ouais. Et même à 10 ans, voilà, je me maquillais et je me maquillais beaucoup. Parce que forcément, tu as eu l'habitude de voir ton visage avec le maquillage. Tu regardes les plus grandes qui sont très maquillées, tu as envie de faire comme elles. Et donc, moi, à 15 ans, j'étais déjà très, très maquillée. Je me souviens d'une fois de mes tantes qui m'a dit, mais. Le problème, c'est que tu as commencé comme ça, tu n'arriveras plus jamais à faire machine arrière. Et j'avais du violet, du rose sur les yeux. Enfin, c'était vraiment Et je faisais tout toute seule. Ouais.
Et en même temps, pour les spectacles, il faut se maquiller plus parce que tu es plus loin.
Pour être vu, pour que tes yeux ressortent. Mmh. Donc, très tôt, on t'apprend les gestes. Voilà, parce que c'était quand même amateur. Et après, même quand c'était plus professionnel, on n'avait pas des make-up artistes qui venaient dans les coulisses. On n'avait pas cette chance-là. Et donc, il fallait apprendre à se maquiller. Alors, on se maquillait entre nous aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'on maîtrisait beaucoup et le fond de teint, et l'eyeliner, le mascara, enfin voilà, le rouge à lèvres.
Ouais, bah, j'imagine. Ouais. Donc, tu as vraiment baigné dedans très tôt.
J'ai baigné dedans très tôt, ouais.
Du coup, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que donc, tu commences ta carrière après chez A Touch Of, puis Doctissimo. Alors, on va plus connaître Doctissimo.
Doctissimo, A Touch Of, c'était une petite agence d'événements. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. En fait, quand j'ai décidé d'arrêter la danse, j'ai une question qui s'est posée, c'est j'ai 21 ans, 22 ans, qu'est-ce que je fais? Reprendre mes études, franchement, déjà, j'étais pas très studieuse. Mais en plus, je me dis, ils vont tous avoir 18 ans, les gens qui m'entourent, et moi, j'ai déjà 22 ans. Et en plus, quand tu décides de reprendre tes études, t'as pas vraiment de cursus transverse, quoi. C'est soit tu te dis, je vais faire du commerce, soit je vais faire de l'événement. Enfin, j'avais pas vraiment beaucoup de solutions qui s'offrent à moi et j'avais pas envie de m'enfermer dans une voie parce que j'avais été dans une voie pendant des années. Et donc, bon, j'ai papillonné, j'ai fait un peu d'immobilier et je suis arrivée, en fait, j'ai rencontré un couple de fondateurs d'une agence d'événements et j'ai bataillé. C'est-à-dire que j'avais pas de diplôme, j'avais rien et je ne les ai jamais lâchés jusqu'à ce qu'ils finissent par m'embaucher.
Tu les appelais, t'allais les voir?
Mais je les appelais, j'allais les voir, je leur disais, dès qu'ils avaient un événement, je me rendais disponible même gratuitement. J'avais aucun problème. Et donc, 6 mois plus tard, ils m'ont enfin proposé un vrai poste. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette agence et on a organisé des événements complètement dingues.
Mais ça me dit quelque chose, hein, pour le coup. Parle.
Ouais. Et c'est vrai qu'on a organisé aussi beaucoup d'événements pour Doctissimo, d'où le lien.
Ah.
Et on faisait à cette époque-là, il y avait des très beaux voyages. On a fait le carnaval de Venise dans des palais vénitiens qui étaient juste privés, auxquels on ne pouvait pas avoir accès. On arrivait à avoir les accès. Enfin, on a fait des trucs de fou. On est parti en Islande. Et en fait, quand j'ai rencontré Doctissimo et j'ai fait les voyages avec eux, le fondateur Doctissimo m'a proposé de travailler pour eux directement pour gérer les événements de l'interne.
Parce que Doctissimo, à l'époque, c'était déjà... Ça, c'était pas vraiment ce que c'est aujourd'hui. Hein. C'était plus...
C'était site. C'était un site qui avait 2 verticales, toute la partie édito et une partie forum. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je fais l'entretien avec le fondateur, je n'y connais rien. Mais absolument rien. Ouais. Je ne comprends pas.
Mais il t'a vu travailler.
Il m'a vu travailler. Et en fait, il m'a dit que, voilà, il m'avait vu travailler et il voulait vraiment que je rejoigne l'équipe. Et lui, il avait une petite idée en tête, c'est qu'il voulait déjà me mettre au poste de commercial. Sauf que moi, en fait, rien que le mot commercial me donnait de l'urticaire. Donc, j'ai dit hors de question, je ne ferai jamais commercial. Mais ça m'intéressait de pouvoir organiser des événements. On faisait beaucoup d'événements à l'époque, des soirées, des voyages. Et donc, j'ai organisé tous les événements pour Doctissimo pendant un an. Et après, la crise est un peu passée par là. Et donc, 2008, on avait moins de budget. Et là, je me suis retrouvée un peu dans une situation où il fallait que je m'occupe parce que j'avais moins de travail. Et pendant un an, j'avais vu les commerciales de Doctissimo travailler. Et je me suis dit, mais en fait, c'est canon ce qu'elles font. En fait, j'adore le média pour lequel je travaille. J'adore les journalistes qui bossent quotidiennement sur ce média. J'aime les marques. Enfin, je suis une férue de marques depuis que je suis très jeune.
T'aimes communiquer?
J'adore communiquer, j'adore parler. D'ailleurs, si je parle trop, tu me dis. Et, Et voilà, et donc, comme j'avais plus de temps, on m'a proposé de reprendre une partie du portefeuille de clients, et je me suis épanouie là-dedans. Et pour la première fois, j'ai compris qu'en fait, on pouvait être commercial, mais qu'il y avait énormément de très belles valeurs dans le commercial, et que c'était pas l'imaginaire que moi j'avais du commercial.
Ouais. C'est aussi là que tu as commencé à travailler avec des groupes de cosmétiques, et c'est là où on s'est connus quand moi j'étais chez Alès Group. Donc les marques Lierac, Phyto et les parfums Caron.
Caron, ouais. On avait fait des belles opérations.
Voilà, et on avait fait des... ça date. Mais et donc c'était Alès Group, Doctissimo à l'époque, on a bossé ensemble.
On a bossé ensemble.
Ah ouais. Et donc t'as remis un pied finalement dans le monde aussi de la beauté, quoi.
Tout de suite, ouais, parce que, en fait, finalement, après, dans tout mon parcours, alors, Doctissimo, c'était santé, mais c'était aussi beaucoup beauté, parce qu'il y avait, y a 8 millions de visiteurs uniques, alors je ne saurais pas si le chiffre est toujours le même aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça, et donc, c'était surtout des acteurs de la beauté avec lesquels on travaillait, et c'est vrai que j'étais assez passionnée, parce que je trouve que c'est un milieu qui, justement, a beaucoup de liberté dans sa communication et dans la façon de travailler et de faire de la publicité, et moi, qui aime particulièrement les marques, j'adore passer du temps avec chacune d'entre elles parce que je prends conscience que chaque marque, finalement, c'est une personnalité à elle toute seule. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre toujours la marque avec laquelle je travaille. Et aujourd'hui, chez Les Éclaireuses, je continue à travailler beaucoup avec tous ces groupes.
Alors justement, juste avant Les Éclaireuses, du coup, tu passes de Doctissimo à My Little Paris. Pareil, on s'est suivis parce que moi, j'étais chez Armani. On a continué à travailler ensemble. Donc My Little Paris, juste comment ça s'est passé entre Doctissimo et My Little Paris?
Elles sont venues me chercher.
Elles sont venues me
chercher. Elles sont venues me chercher. Céline, une des cofondatrices de My Little Paris, en fait, avait entendu parler de moi avec Fanny, la fondatrice. Et donc, elles sont venues me chercher. Voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment les tout débuts de My Little.
Et pour ceux qui ne connaissent pas My Little Paris, en tout cas au début, c'était une newsletter.
Exactement, c'était une newsletter qui recommandait aux Parisiens d'aller découvrir leur propre ville. Et donc, c'était vraiment, quand je suis arrivée, il y avait que cette newsletter, il y avait peut-être la newsletter Merci Alfred qui existait.
Pour les garçons, voilà, pour les hommes.
Pour les hommes. Et donc, il y avait 5 personnes et j'étais la deuxième commerciale après Céline qui s'occupait du business development plus largement.
Oui, tu as fait partie des débuts. Tu vois, je l'avais oublié.
J'étais au début, à cette époque-là, c'était vraiment une toute petite start-up, mais qui déjà, en un an, avait fait
un carton. Voilà,
une croissance de dingue, aussi bien en audience qu'en chiffres.
Et pareil, du coup, My Little Paris, beaucoup d'adresses effectivement parisiennes, mais aussi des recommandations beauté, des adresses de spa, des adresses beauté.
On s'adresse à un public de femmes. Et c'est certain que chez My Little Paris, il y a l'avantage d'avoir un lien très particulier avec la lectrice qui nous lit tous les jours. Et c'était ça qu'on propose, enfin c'est ça qu'on propose aux marques, parce qu'ils continuent à le faire, c'est de proposer de créer du lien avec la lectrice et toujours en imaginant des opérations qui soient pertinentes pour la marque et pour la lectrice. Donc comme on avait des femmes, c'est certain qu'on leur a parlé beaucoup de beauté. On leur a parlé d'autres choses, mais la beauté était un très gros secteur.
Exactement. Et puis là, dernièrement, il y a 6 mois, hein, c'est ça, Les Éclaireuses, pareil, on t'a débauché.
Oui, pour reprendre la direction générale avec les deux fondatrices, les deux cofondatrices. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Les Éclaireuses, ça faisait longtemps que je les suivais, parce que quand elles sont arrivées sur le marché il y a 5 ans, au début, c'était une petite poussière. Et en quelques mois, cette petite poussière, elle était devenue, c'était devenu un joyau, c'était énorme. Et je me souviens de les avoir beaucoup suivies quand j'étais chez My Little, parce qu'elles avaient aussi cette chance que nous, on a eu plus de mal peut-être à faire, c'était elles arrivaient sur le social et donc elles maîtrisaient le social et très rapidement la croissance s'est faite.
Mais alors Les Éclaireuses, c'est quoi exactement en quelques mots?
On a la plus grosse communauté beauté en France. C'est en fait plus qu'un site, pour moi c'est un vrai média. Et c'est un média social parce que c'est un média qui est né sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait toute la particularité de ce média, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, on a toute une équipe de journalistes qui est donc en contact en direct avec sa communauté. Ouais. Et donc, ça crée aussi une ligne éditoriale qui est complètement différente.
Et c'était Facebook au départ?
Facebook, ouais, parce qu'il y a 5 ans, c'était surtout Facebook qui était là. Et donc, on est des créateurs de contenu. On crée beaucoup de contenu édito, principalement, aussi vidéo. Et là, on est dans notre studio de
on y est actuellement, voilà, avec vidéo. Un panneau vert comme le panneau de la météo.
Exactement, voilà. On tourne toute la journée. Et donc, initialement, c'était un média qui était plus sur les tendances beauté et mode. Mais ces dernières années, on a fait grandir tous les sujets qu'on adresse. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on s'adresse à 5 millions de femmes et que ces 5 millions de femmes, elles veulent qu'on leur parle de mode, évidemment, elles veulent qu'on leur parle de beauté. Mmh. On est vraiment là pour leur donner les dernières tendances et vraiment les dernières nouveautés. Mais ces femmes-là, elles, entre elles, elles parlent d'autre chose. Voilà. Mmh. Elles parlent de politique, elles parlent d'engagement, elles parlent d'écologie, elles parlent de maternité, elles parlent de toutes ces choses-là. Et c'était important pour nous de grandir avec notre communauté et d'aujourd'hui d'adresser tous leurs sujets. Et donc c'est vrai que la signature des éclaireuses, c'est un média qui est pertinent et impertinent. Et dans tout ce qu'on produit quotidiennement, on a toujours ça en tête, qu'on est là pour rire, pour se marrer, rire de nous. Il y a beaucoup de sarcasme, beaucoup de second degré dans tout ce qu'on produit. Mais on est aussi là pour parler de choses sérieuses. Donc voilà, là on a par exemple fait un énorme dossier sur la charge mentale. Parce qu'on sait qu'on s'adresse à des femmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est la façon dont on traite les sujets. C'est toujours avec des mots très simples. On n'est pas là pour forcément donner notre avis. Par contre, on met en lumière les sujets qui, pour nous, sont importants.
Et alors, justement, parlant des sujets importants, j'ai vu un article sur les éclaireuses qui m'a quand même interpellée. Et je l'ai trouvé hyper intéressant. Vous parlez du filtre lèvres botoxées, effet chirurgie esthétique qu'on trouve actuellement sur Instagram et sur les stories. Surtout, on voit toutes les filles en font en ce moment. L'article parle même d'une bataille contre la dysmorphie et soutient le body positivisme. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter à quel moment ça a pris ce sujet dans votre rédaction ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'était lundi dernier. En fait, on est tombé sur ce filtre.
Oui, c'est très récent.
Ouais, c'est hyper récent. Ouais. En fait, c'était lundi dernier. Je me souviens encore très bien parce qu'on était en train de brainstormer en fin de journée. Et on découvre ce filtre-là et on commence à jouer avec en se disant, mais c'est quand même scandaleux de faire ce genre de filtre et de laisser la possibilité à toutes les femmes et tous les hommes de jouer avec ça. En fait, c'est pas drôle. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est un peu mobiliser notre communauté pour dire qu'on était contre ce genre de filtre-là. Et donc, nous, on s'est prises en photo chacune en utilisant un peu la tagline « Toutes les mêmes et il y en a marre ».
Oui, bah ça, je l'avais noté. Le hashtag « Toutes les mêmes, il y en a marre ».
Et il y en a marre. Ouais, et on a demandé à notre communauté d'utiliser le filtre, de prendre une photo d'elle et avec le hashtag « Les éclaireuses » et « Toutes les mêmes et il y en a marre ». Et c'est vrai qu'on a eu énormément de retombées et on a été très flattés, parce qu'en même temps, on ne l'a pas fait pour ça, mais on a été ravis de savoir qu'en fait, Instagram remet en question ces filtres-là et va sûrement les sortir et les faire disparaître. C'était un peu une bataille et on est content de se dire que finalement, dans notre rédaction à nous, on est 25 personnes aujourd'hui, on peut jouer un rôle sur des décisions stratégiques du grand groupe
Mais c'est Facebook, vrai que c'est Instagram. Un filtre que je vois sans arrêt tous les jours depuis...
Image on donne à nos filles, aux jeunes filles.
Il faut avoir des lèvres énormes, botoxées. Voilà. Avec ton parcours, tu as toujours côtoyé les grands groupes de cosmétiques, les nombreuses rédactions. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as vu des évolutions dans ce milieu ou même dans le milieu de la beauté ces dernières années ?
Je dirais que la première évolution que moi je vois, c'est la prise de conscience écologique des marques qui prennent conscience qu'elles ne peuvent plus mettre ce qu'elles veulent et n'importe quoi dans les produits. Alors merci à des acteurs comme Yuka d'avoir un peu éveillé tout le monde sur ce sujet-là. Merci aussi aux femmes d'aujourd'hui qui n'attendent plus que l'information vienne à elles, mais elles vont de plus en plus chercher l'information. Et ça, je trouve que c'est aussi ce qui change complètement et qui inverse les rôles. Parce que pendant des années, les médias étaient là pour informer, mais on venait directement à son lecteur. Aujourd'hui, le lecteur, il attend plus ça d'un média. Le lecteur, il a besoin de se faire sa propre opinion et d'aller chercher l'information. Donc, les médias ont un rôle important à jouer, et j'en suis convaincue parce que je travaille aussi là-dedans. Mais il faut avoir conscience que les gens viennent chez nous. Donc, il faut qu'on soit vigilant sur tout ce qu'on produit, que ce ne soit pas des fake news, que tout soit très vérifié. Mais il faut être conscient qu'on vient chez nous pour prendre des informations. Et donc, je pense que ça a inversé aussi la façon dont les marques interagissent avec leur communauté. Et je dirais le deuxième gros changement, mais qui est plus lié au marketing et moins au produit, c'est plus... de s'être remis au même niveau que sa
cliente.
Ouais. J'aime pas le mot consommateur, je déteste ce mot-là. Mais c'est vraiment ça. En fait, moi, j'ai vraiment senti en 15 ans, parce que ça fait 15 ans maintenant que je suis sur ce marché, que les marques, et particulièrement les marques de beauté, en fait, il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait, elles se sont mises au même niveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acteurs comme Glossier qui ont un peu révolutionné le marché de la beauté et qui, pendant des années, en fait, elles étaient leaders et elles n'avaient pas peur des nouveaux acteurs. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que certains nouveaux acteurs peuvent prendre, alors pas des grosses parts de marché, mais elles peuvent prendre des parts de marché quand même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre la valeur de l'empathie au cœur de tout ce qu'on fait. Et moi, cette valeur-là, elle fait partie de moi. C'est quand on communique, se mettre à la place de celle à qui on s'adresse. Et en fait, je pense que pendant trop longtemps, on a oublié la femme à laquelle on s'adressait.
Elle n'était même pas écoutée, je pense.
Elle n'était pas écoutée, ils ne savaient pas qui c'était. Pourquoi aussi? Parce que dans le secteur de la beauté, finalement, leur premier client, c'est la GMS, c'est les retailers. Donc la cliente, enfin la femme qui est devant son miroir dans la salle de bain, personne ne pensait vraiment à elle. Et donc, je pense que les mentalités, elles ont aussi beaucoup changé ces derniers temps. Et je pense que des médias comme Les Éclaireuses ou même comme My Little Paris ont beaucoup contribué à ça. Et puis, il y a une vraie prise de conscience des marques que tout n'est pas gagné. Et qu'elles, voilà.
Mais c'est vrai qu'en parlant de Glossier, il me semble même que la fondatrice avait posé une question à ses clientes en disant quel est le prochain démaquillant que vous voulez, quoi.
Bah, Glossier, tout repose sur ça. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Glossier, c'est qu'à la base, elle n'est pas là pour créer une marque. Elle a son compte et son blog, Into the Gloss. Et puis, de fil en aiguille, elle devient une experte de beauté. Et puis, elle se dit, en fait, maintenant, j'ai les capacités de produire. Et donc, quand elle a décidé de lancer son premier produit, elle ne s'est pas dit, tiens, je vais lancer ça parce que j'ai l'intuition que c'est ça qui va marcher. Mais elle a pris le temps d'écouter sa communauté, de les interroger. Et c'est vrai que quand on lance une marque et qu'on a déjà une communauté qui est là, c'est quand même beaucoup plus fort.
C'est génial.
Parce que c'est aujourd'hui ce qui manque à beaucoup, beaucoup de marques, c'est un lien direct avec la femme à laquelle ils ont envie de parler. Et puis, il y a aussi toujours les cibles marketing et la réelle cliente.
Exactement, voilà. Exactement. Ouais. Et juste une autre question dans cette thématique, mais est-ce que tu penses aussi que les femmes entre elles, dans ce milieu, ont changé? Par exemple, le fait que vous ayez lancé ce body positivisme, ça montre, vous avez réfléchi entre vous, vous êtes dit non, on veut plus ça. Est-ce que il y a 10 ans, ça aurait pu arriver?
Non, je pense pas. Moi, je pense qu'on est à l'ère post-MeToo, qui fait que aujourd'hui, les femmes se sentent beaucoup plus libres, ont le droit d'être, ont le droit de dire, ont le droit d'agir. Alors après, pour moi, ça soulève un autre problème, c'est que parfois, c'est un peu vertigineux parce que justement, maintenant qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, moi, j'ai évolué dans un milieu de filles depuis ma plus tendre enfance.
Les spectacles.
Les spectacles, la danse, Doctissimo, c'était très féminin. Alors, c'est marrant parce que je dirais que... toutes les femmes, enfin toutes les filles avec qui j'ai été pendant toute ma vie, en fait, on entend souvent les filles, c'est des histoires, c'est des problèmes. C'est pas vrai. En fait, que je sois chez Doctissimo, là aujourd'hui chez Les Éclaireuses, on est 100% féminin. Il n'y a pas un homme.
Là, chez Les Éclaireuses, il n'y a
pas d'homme. Il n'y a pas d'histoire. Au contraire, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide. On se marre, on parle, on se dit les choses. Et il y a une vraie parole libérée. Et donc, je ne sais pas si c'est la beauté qui a changé ça, mais je dirais qu'en tout cas, la femme a changé un peu son comportement envers elle. Et donc, forcément, quand tu changes ton comportement envers toi, tu changes ta relation avec l'autre.
Quoi. Exactement. Alors, écoute, Anaïs, on va passer aux questions beauté, donc c'est sur
c'est
toi.
Parti, ouais.
Alors, quelle est ta routine beauté de tous les jours?
Alors, déjà, ma routine beauté, c'est beaucoup plus dans le soin. Le matin, j'ai un gel nettoyant le visage. Alors, comme je travaille avec beaucoup, beaucoup de marques, j'ai pas de marques fétiches, je les aime
toutes.
Tu les
testes.
Voilà, je les teste toutes, je les aime toutes. Et c'est vrai que j'ai pas de produit, j'ai pas dans ma salle de bain un produit que je ne quitterai jamais. Enfin... Donc, nettoyer le visage et ensuite un sérum. Je mets le sérum et la crème.
D'accord.
Voilà. Et le soir. Et après, je vais mettre un peu de fond de teint, mais j'en mets très peu. C'est nouveau, là. Je mets du fond de teint. Ouais.
Et pourquoi c'est nouveau?
Alors,
comme
pourquoi
ça?
Non, mais je vais te dire exactement pourquoi. Parce que j'ai fait un rendez-vous avec Lancôme qui m'a parlé de fond de teint. Et je me suis dit, quand même, c'est fou que je ne mette jamais de fond de teint. Et j'en ai chez moi. Et donc, je me suis dit, je vais mettre du fond de teint. Et c'est vrai que ça fait quand même un teint lisse. Mais j'étais pas trop fond de teint. Après, la terracotta, mascara. Et rouge à lèvres. Par contre, je suis très rouge à lèvres.
Oui, très rouge à lèvres. Rouge à lèvres.
Je suis peu maquillée, mais j'ai le rouge à lèvres.
Donc, tu as là un super rouge à lèvres rouge.
Ouais. Et ben.
Bah, toi, tu nous le diras tout à l'heure. Il est dans ton sac, je pense.
Et le soir, je me démaquille les yeux. Et je me démaquille avec les lotions. Et après, à nouveau, je remets un sérum et une crème de nuit. Et je mets aussi Là, c'est le Night Repair d'Estée Lauder.
Ah oui.
Voilà, que je, ça, par contre, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup.
Donc, tu te démaquilles toujours. Ouais. Jamais d'impasse maître. C'est très bien. Et le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné, c'est ça ?
C'est celui-là. Ouais. C'est ma mère qui m'a imposé de me démaquiller, mais absolument tout le temps. Et donc, je le fais. C'est-à-dire que même très, très tard, très, ouais, tout ce que tu veux, je ne me suis jamais endormie maquillée.
Pareil pour moi.
Ouais.
Je pense que...
Mais je pense que c'est un très bon conseil. Ouais.
Et ça, ça m'empêcherait même de dormir si j'étais maquillée.
Je pense que, et c'est vrai que sur le coup, je me disais que ma mère était casse-pied. et je la remercie pour ça parce qu'elle elle a fait partie de celles qui m'ont donné beaucoup de gestes de beauté sur comment on applique sa crème. Alors elle aussi, elle met la crème tous les jours sur le corps. Je t'avoue, maman, je ne le fais pas tous les jours. Mais elle a ça. Et je pense que prendre soin de sa peau permet aussi de... Voilà, d'enlever beaucoup de signes de fatigue. Et,
alors, question plus difficile, mais qu'est-ce que tu te dis lorsque tu te regardes dans le miroir ?
En ce moment, je me dis que j'ai vieilli. Oh. Ah ouais, quand même ! Non, mais qu'est-ce que je me dis ? C'est vrai que c'est une question qui est difficile parce que y a des jours où je me dis que ça va pas, et puis il y a des jours où je me dis, bon, bah, tu te maintiens quand même, c'est pas mal. Mais je pense que... Je pense pas que je sois très dure avec moi, parce que je suis d'une nature plutôt très positive et que j'ai plutôt tendance à avoir toujours le verre à moitié plein. Et donc, même quand ça va mal, je trouve toujours le côté positif de la chose qui va mal. Donc, c'est rare que je me vois dans la glace en me disant « Ah, mais c'est horrible, comment tu peux oser te montrer comme ça ?» J'avoue que je le fais pas et j'essaie de voir le côté positif. Voilà. Et,
Donc, la vieillesse, ça te fait peur ? Le fait de vieillir te fait peur ?
Non, parce que je trouve que ça va avec la vie que je mène aujourd'hui et que je suis plutôt à l'aise avec ça, parce que vieillir, ça va avec la sagesse, ce que tu apprends, la confiance que tu peux prendre en toi, voilà, il y a tout ça. Donc non, je suis pas du tout mal à l'aise. C'est plus que, oui, c'est sûr que voilà, j'ai des signes qui apparaissent, qui sont là et qu'on ne peut pas nier.
Écoute, moi je t'ai vu il y a longtemps, t'as pas changé.
C'est gentil.
Parce que j'ai oublié de décrire Anaïs, mais Anaïs, c'est la grande, brune, le teint hâlé, le beau rouge à lèvres, fine, parisienne quoi, la belle parisienne. La parisienne qu'on peut imaginer, ouais, quand même. Alors vas-y, c'est le moment sac à main. Quels sont les produits dans ton sac en ce moment ?
Alors,
tu peux le sortir ton sac.
Je vais sortir mon sac.
Allez.
Alors, j'ai un mascara, c'est Hypnose de Lancôme, voilà, ouais. qui est pour moi un iconique, une valeur sûre. J'ai un rouge à lèvres de chez Givenchy, un rouge très rouge, voilà.
Ils sont très beaux mais très lourds ceux-là.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont
lourds. Pour en avoir un, ils sont lourds.
Et c'est surtout le pack, il est magnifique.
Le pack est dingue, oui. Il y a un miroir intégré. Moi, j'ai un miroir intégré dans celui-là.
Non, pas dans celui-là.
Alors, c'est un ancien, à mon avis.
Ah, peut-être. Alors, non, moi, dans celui-là, il n'y a pas. C'est vraiment le contour en cuir. Et,
ah oui, d'accord. Non.
Et ma terracotta, évidemment.
Ah oui.
De Guerlain. Pour le teint allé. C'est le fameux. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai un petit gel nettoyant de chez Merci Andy.
Ah oui.
Voilà. C'est très pratique quand on a des enfants. Et j'ai une crème pour les mains de chez Yves Rocher.
D'accord, Yves Rocher.
Voilà. C'est vraiment du basique.
Simple, mais des valeurs sûres.
J'ai du basique.
Ouais. Et imaginons qu'hier, tu aies passé une soirée un petit peu alcoolisée, tu n'as pas beaucoup dormi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais le lendemain pour avoir l'air fraîche ?
Déjà, je prends une douche. Mais la vraie douche, tu sais, où tu mets le visage comme ça.
Oui, pendant des heures.
Je commence par prendre un médicament, soit un Nurofen, soit un Doliprane, au choix.
Et, ça, c'est que tu as fait trop de mélange.
Oui, en général, ouais, voilà. Je commence par ça. Et après, peut-être que ce jour-là, je me maquillerai un tout petit peu plus. Ouais, peut-être. Ouais. Si jamais vraiment je sens que j'ai le teint blafard et que je n'ai pas le visage... qui me convient, je mettrais peut-être un tout petit peu plus de fond de teint, un peu plus de terracotta, histoire de faire bonne figure et de me tromper moi-même. Je suis en pleine forme.
Et ton dernier achat beauté, alors je sais que chez les éclaireuses ou My Little Paris, tu reçois énormément de produits, mais est-ce que là, il y a un produit que tu as racheté récemment ?
Alors, ce que je ne reçois pas suffisamment... Non, ça ne se dit pas, ça. Parce que... Non, mais...
Non, c'est bon,
pardon. Non, ce que j'achète vraiment, c'est les shampoings. Donc, moi, j'utilise les shampoings René Forterer. Et donc, ça, c'est mon dernier achat beauté. Donc, je vais être plus sur des achats beauté parapharmacie, aussi pour mes enfants. Voilà, tout ce
et qui pourquoi, va être, pourquoi cette marque-là?
Bah, à nouveau, je crois que je suis très orientée par les clientes avec lesquelles j'ai travaillé.
Ah, oui.
Et oui, oui, j'ai beaucoup travaillé avec elles. Ouais, elles m'ont tellement parlé du produit que j'ai l'impression que voilà, je le connais si bien que j'en ai confiance.
D'accord.
Moi, j'ai besoin d'avoir confiance. Mais pas une confiance, si, un peu marketing, mais les personnes avec qui je travaille.
Ouais, t'es pas du genre à changer de shampoing
Non, shampoing, je suis assez fidèle.
D'accord.
C'est le seul produit sur lequel je suis un peu fidèle.
Et dis-moi, est-ce que t'as vraiment eu un gros ratage beauté ces dernières années ou quand t'étais plus jeune?
Plutôt quand j'étais plus jeune, parce que je pense qu'aujourd'hui, je me maquille trop peu pour que j'ai des ratages beauté. Non, je dirais oui, plus jeune, j'avais vraiment le look, voilà, les cheveux rouges et les yeux maquillés à outrance.
Un gros smoky, quoi.
Ouais.
Et les cheveux rouges, t'as fait?
Ouais. Auburn, on disait Auburn à l'époque.
Ah
mais...
ouais, oui, non, Auburn, je vois Auburn, très bien, ouais. Oui. Moi, j'ai eu ça aussi, je crois.
C'était pas très élégant. Ouais. Bon, on se dit que c'était les années 90, ça passait.
Avec le petit pas de def qui revenait
à la mode. Ouais, complètement, les buffalo, là.
Oh là là, oui, ma mère les appelait les écrase-merde,
ouais,
toi aussi.
Ouais, bien sûr, on les a tout dessus.
Ça ou les Doc Martens.
Les Doc Martens
voilà,
aussi, ouais.
J'alternais entre ça et ça.
C'était pas très élégant.
C'est pas du tout, non.
Mais bon, on aimait.
Mais sur les photos, c'est pas si mal, ça donnait un
reviendra.
Style. Oh, bah, c'est sûr, mais les buffalo, ça revient, j'en ai vu.
Mais j'en ai vu, ça
Est-ce que tu as des adresses de beauté culte à nous dévoiler, toi qui as bossé dans des endroits où tu trouvais toutes les adresses beauté?
Ouais. Bah en fait, j'en ai plusieurs, mais je dirais qu'il y en a une qui m'a vraiment marquée, c'est le spa La Grée des Landes, donc qui est le spa de Yves Rocher, qui est à la Gacie, et qui est juste canonissime, parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à transmettre toute l'ADN de la marque, de façon très simple. C'est un spa qui... donc, c'est un hôtel spa. Donc, on peut même y dormir. Et tout est pensé pour partager les valeurs de la marque sur, justement, la naturalité, la femme. Même le chef cuisine que des produits locaux. Donc, voilà. C'est vraiment, moi, mon adresse favorite. C'est canon. Et en plus, vous pouvez aller après vous balader dans les... en fait, ils ont des jardins botaniques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse partie des équipes d'Yves Rocher qui travaillent à l'Agacie, donc dans le village natal de Yves Rocher. Et donc, on peut visiter les jardins botaniques. En fait, ça donne beaucoup de sens dans le produit, parce qu'on voit les produits, enfin, l'origine,
l'origine
produits, des produits. Et donc, ils cultivent là-bas et ils produisent aussi beaucoup, beaucoup sur place.
Ben, ça donne envie. Est-ce qu'il y a un parfum que tu aimes sur un homme?
Ah, sur un homme.
Oui, plus le côté masculin cette fois-ci.
Bah, forcément celui de mon mari, parce qu'il met la nuit de l'homme et que c'est celui qui fait que peu importe où je suis, s'il y a quelqu'un qui porte la nuit de l'homme.
Voilà. Donc Yves Saint Laurent.
Ouais, de Yves Saint Laurent.
Ouais.
Mais bon, le parfum, c'est quand même. Ouais, c'est un...
Et toi, t'en as un?
Alors, moi, je mets l'heure bleue de Guerlain. Mais je vais peut-être changer.
Ah, pourquoi?
Je me suis lassée.
Tu t'es lassée,
ouais. Ouais.
Ça fait longtemps qu'il existe.
Oui. Non, mais c'est là que tu réalises que t'as vieilli. Hein. C'est quand tu le sens que tu dis, ça sent bon. Ah, mais non, logiquement, c'est vraiment un parfum voilà, qui sent fort. Quoi.
Oui, oui, il a du caractère.
Ouais. Non, je pense que je vais revenir sur un Elissab.
Que tu connais, tu mettais
ouais,
avant
que
déjà.
Je mettais avant. Le premier d'Elissab, que j'aimais vraiment beaucoup.
Est-ce que tu penses que la beauté et l'alimentation vont ensemble? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges?
Non.
Non?
Pas du tout.
Ça se voit pas. Hein.
Ouais, non, pas du tout. C'est terrible. Je mange très mal. Enfin, je mange très mal et en même temps, comme je suis vraiment une nulle en cuisine, je me suis acheté un cuivapeur et du coup, je fais tous mes légumes.
Tu mets tout dedans.
Ouais,
voilà.
Je mets tout dedans.
Le riz, les
voilà,
légumes.
Tout rentre, les carottes et tout.
Bah, au moins, c'est celle-ci.
Mais du coup, c'est celle-ci. Voilà. Mais non, je mange beaucoup de fromage, beaucoup de charcuterie. C'est pas très bien. Mais j'aime ça. Mais par contre, oui, c'est vrai que je pense que ça a forcément un lien. Les deux ont un lien. Mais. Vu que moi, dans ma routine, je prends vraiment beaucoup de temps pour m'occuper de moi, du coup, à l'extérieur, j'ai l'impression que ça compense vraiment le fait que je n'ai peut-être pas une alimentation des plus saines.
Mmh. Quand tu dis tu prends soin de toi pendant, le matin et le soir.
Le matin et le soir. En fait, j'ai vraiment ma routine beauté.
Oui. C'est ton moment.
Voilà, les peu de fois que je suis partie sans crème hydratante sur le visage, c'était parce que... Il y avait dû avoir une catastrophe avec les enfants. Et toute la journée, j'y pense. Enfin, il faut que je trouve une crème hydratante. À un moment, j'en ai un vrai besoin. Donc, voilà.
Écoute Anaïs, on va passer aux questions en vrac, donc c'est des questions un peu en mode plus rapide, tac au tac. Mais tu peux quand même en dire plus si tu as envie. Hein. Anaïs, est-ce qu'il y a une personne que tu admires ?
Bon, mon mari.
Oh, c'est beau.
Ouais.
Et pourquoi ?
Je sais pas, il a tout. En fait, il a l'écoute attentive, il a la bienveillance, j'aime ce qu'il fait, j'aime... Ouais, j'aime... Enfin, il n'y a pas de...
Ouais, voilà, tout quoi.
Et c'est quelqu'un de... Tu sais, en ce moment, on... Il va rire quand je dis ça. En ce moment, on parle beaucoup des hommes, de la place des hommes dans la famille. Et moi, j'ai un homme qui est extrêmement présent, qui pense à tout, qui pense à l'autre, et voilà, qui me surprend parfois à faire des choses. Voilà, on parlait de charge mentale. Bah, moi, parfois, je suis surprise de voir que il est vraiment là pour nous. Il nous connaît extrêmement bien. Donc, ouais, j'ai un vrai pilier.
Waouh. Ouais. Tu enverras ce message.
Ouais. Non, mais c'est, je me rends compte tous les jours.
Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné un jour auquel tu penses régulièrement dans la vie ?
Oui. Deux. Le premier, c'est ne pas avoir peur des échecs. Et ça, je pense que je le savais parce que dans la danse, t'en as plein des échecs et malgré tout, tu te relèves. Mais je pense que je mettais plus de temps à me relever avant qu'on me le dise. Et que surtout, de l'expérience, tu comprends que rien n'est n'est un échec, mais juste, voilà, ça fait partie de ton parcours et de ton apprentissage.
Ça sert à quelque chose au final. Ouais.
Oui. Ça, c'est le premier conseil. Et l'autre deuxième conseil, c'est un conseil voilà, que je ressors souvent, c'est, mais c'est mets le sac de l'autre côté du mur. Tu trouveras toujours une solution pour y aller.
Waouh, ouais, j'avais pas entendu ça là.
Ouais, et je trouve que c'est vrai. Donc, un truc un peu, un exemple très précis, c'est tu veux organiser un événement, bah, pose une date et puis envoie tes invitations. Tu trouveras toujours une solution pour l'organiser.
En fait, t'es une fonceuse hein, quand même.
Je sais pas, peut-être.
T'y vas quoi.
Oui, j'y vais. Non, j'y vais. Et je pense que la danse m'aura...
T'as appris ça ?
La danse m'aura appris... tous les soft skills, donc vraiment à, enfin, j'ai appris à me battre contre moi-même, j'ai appris à me connaître et je trouve que j'ai pas fait des grandes études, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait HEC et malgré tout j'arrive à évoluer dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et j'ai les bonnes armes parce que la danse m'a forgé autre chose que de la pratique.
J'allais te demander, qu'est-ce que tu fais pour te détendre après une journée de dingue et aussi, est-ce que tu danses toujours ?
Non, je danse plus.
Plus du tout ?
Non. Je me suis mise au tennis parce que mon mari, il a un restaurant dans un tennis. Je suis nulle.
Il a un restaurant dans un tennis ?
Ouais,
ah ouais.
Il est le patron du restaurant d'un tennis dans le 16e.
D'accord, ok.
Et du coup, je me suis mise au tennis, mais je ne fais pas de danse, c'est nul. Qu'est-ce que je fais pour me détendre ? Je bois un verre de vin.
Vin rouge ou blanc ?
Rouge. Ouais, je bois un... ouais, parce que je fume pas, donc bah voilà, on se boit un petit verre de vin.
Mais et pourquoi tu danses plus ? C'est vraiment parce que
le temps. Ouais. C'est plus
ça
le temps.
Ça te manque pas ? Quand t'as été aussi passionnée à une époque ?
Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu redanses, si je redanse aujourd'hui, j'ai plus le niveau que j'avais et j'ai
perturbe.
Peur de l'image que je vais me projeter dans le miroir. Voilà, et mais je pense pas que ça me manque foncièrement. Je pense que ce qui me manque plus, c'est le passé, en fait, de ce moment que j'ai vécu. Mais j'aurais envie de dire que peut-être tout le monde ressent ça. Ouais. On pense tous à nos années lycée. Donc, c'est plus la nostalgie du passé, la nostalgie de la scène, la nostalgie de... Mais que je retrouve. En fait, je pense que le métier de commercial... En tout cas, comme moi, je l'ai construit, je monte encore sur scène. J'ai encore des moments où j'ai ce sentiment d'équipe parce qu'on va faire une grosse présentation avec l'équipe. On ressort de là, on est content de nous. Et je retrouve un peu le sentiment que j'avais de la scène avec le trac avant et en même temps l'excitation, l'adrénaline. Ouais. Voilà. Donc, c'est peut-être plus ça qui me manque. Et non, je trouve pas du tout le temps pour faire du sport.
Au pire, tu peux danser quand tu vas en soirée. Tu es peut-être la première à aller danser sur la piste de danse.
Danse ouais. Ça, oui.
Est-ce que tu as une citation qui te booste ?
Justement, c'est pas une citation, mais c'est ne pas avoir peur de l'échec. En fait, l'échec, c'est n'est qu'une histoire d'expérimentation.
À quel moment tu es la plus heureuse ?
Oh, bah...
T'as plein de moments.
Ouais, en fait, j'ai plein de moments parce que j'adore ce que je fais. Et en fait, si je dirais, dans les moments où je suis la plus heureuse, ce sera forcément lié à l'humain. Donc c'est soit, je sais pas, j'ai quelqu'un, une collègue qui m'a surpris, dont je suis trop fière, c'est un échange que j'ai eu avec quelqu'un ou avec mon équipe. Donc c'est très lié à l'humain. Et donc quand c'est pas professionnel, c'est avec ma famille ou mes amis. Mais du coup, les moments où je suis heureuse, c'est les moments où je suis en osmose avec les personnes qui sont en face.
Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ?
La médiocrité.
Et si tu pouvais changer quelque chose d'un coup de baguette magique dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais ?
Bah, je mettrais beaucoup plus de bienveillance dans tout ce que... Voilà, partout. Ouais. J'aimerais que les gens soient... Voilà. Il y a le livre de Malin Riddal qui dit « Heureux comme un Danois », qui m'a marqué parce qu'elle parle du fait que les Danois sont plus heureux que nous juste parce que, en fait, ils ont confiance les uns envers les autres. Donc, tu sais que t'es quelqu'un de confiance, donc tu as confiance en l'autre. Et en fait, je pense qu'il y a, voilà, mettre plus de bienveillance et plus de confiance.
Les uns les autres.
Les uns.
Alors, la question un peu social media, mais par qui t'aimerais être suivie sur Instagram? Pas facile, ça. Hein,
bah...
T'as un compte ouvert, au moins?
Non.
Bon, imaginons qu'il soit ouvert.
Je sais pas.
Ça peut être un chanteur, ça peut être un... Céline Dion ?
Bah ouais.
T'aimes bien Céline Dion ?
C'est pas tant que j'aime bien, mais c'est moi aussi, j'avais un débat hier sur ça. C'est pas tant que je l'aime bien, mais je connais toutes ses chansons. Ouais. Donc il doit y avoir une part de moi qui doit bien l'aimer.
Au fond, on l'aime bien, Céline Dion.
Voilà, et en fait, je pense que j'ai un rêve au fond de moi. J'aurais aimé, une fois, être à la place...
À sa place, ouais. Ouais, sur scène.
Monter sur scène, ouais, et dire...
Ça doit être dingue.
Bonsoir Paris, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, j'aurais aimé être un des Beatles, je pense.
Ah, pas mal.
Et faire pas mal aussi.
Ouais, ouais, en fait, parce que cette époque, ce qui était pas mal, c'est qu'on voyageait beaucoup. Il y avait ce... Je sais pas, il y a une forme d'insouciance.
Exactement. Et puis, ces moments où, en fait, ils étaient pas connus, ils deviennent connus. Ouais. Enfin, t'as des moments de scène dans des bars. Enfin, ça devait être dingue.
C'est vrai. J'ai vu, ils ont sorti un film récemment, Yesterday.
Oui,
j'ai vu,
oui,
là,
oui,
il y a
oui.
deux semaines.
Oui, le chanteur. Ouais. Oui, oui.
Et c'est vrai que ça m'a replongé dans leur histoire. Enfin, dans leur histoire, non, mais en fait, en tout cas, dans leur
chanson.
Et c'est vrai que c'était une belle époque.
C'est clair. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Anaïs ?
De continuer à être épanouie.
Autant que tu l'es aujourd'hui. Ouais. Ouais. T'as un petit mot pour nos auditeurs ?
On est là pour parler de beauté, donc je vais parler de beauté. Et je dirais que... finalement, même si on n'est pas tous des experts de beauté, la beauté, elle est pour tout le monde. Et je pense que la plus belle des beautés, c'est de s'aimer soi, de se trouver beau.
Anaïs, merci. C'est la fin de ce podcast. T'as aimé, ça a été ?
J'ai adoré.
C'est vrai ?
Oui.
Mais ça me fait plaisir. Au moins, on se connaît mieux maintenant.
Voilà, exactement. Non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir.
Et ben, moi aussi. Merci de m'avoir invitée ici. Et je te souhaite que du bonheur. Et éclatez-vous bien chez les éclaireuses, parce que franchement, c'est un super média. Je te dis à bientôt. Ah, est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part ou pas ?
Sur LinkedIn ?
LinkedIn, ouais. Ok, et ben voilà, Anaïs Peignier.
Anaïs Peignier Dubus.
Dubus, ouais, ok.
Femme mariée.
Ok. Et bien, à bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir. De mon discours orange, suis-je seulement seule ? Celle dont j'ai l'air, souvent je change.